Europe Matin. Omblin Roche, Julien Pierce.
Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur Europe 1.
Vous êtes gay, vous êtes content, bon, ben c'est très bien, faites ce que vous voulez, mais laissez-moi tranquille. J'ai pas gagné au loto, j'ai rien à vendre à personne. Bon, j'ai aucune raison d'être particulièrement gay. Hein, je suis un être humain, je suis pas un animateur.
La voix de Jean-Pierre Bacri, c'est savoureux, hein, l'éternel ronchon du cinéma français, le plus touchant aussi.
Oui, vous l'entendiez ici dans Cuisine et Dépendance, on pourrait citer également Un air de famille, Le goût des autres, ou encore On connaît la chanson, Jean-Pierre Bacri, qui nous a quittés il y a un an, jour pour jour, et dont on ne se lasse pas de l'entendre ronchonner.
Oui, nous sommes le mardi 18 janvier 2022, dans l'actualité, Julien.
Une information Europe 1, la conférence des évêques de France publie aujourd'hui une déclaration à moins de 90 jours du premier tour de la présidentielle. Pas une consigne de vote, mais un document pour, je cite, « éclairer les catholiques ». On va le découvrir dans le journal dans un instant.
À 6h10, on va s'intéresser, Julien, au Liban, où les négociateurs du FMI viennent de poser leurs valises.
Ce qui est, en temps normal, jamais bon signe, mais là, la situation l'exige, tant ce pays s'est effondré en l'espace de 2 ans. Le Liban est tellement endetté que sa monnaie, la livre, a perdu 94% de sa valeur. Résultat, les 3/4 de la population vit désormais sous le seuil de pauvreté. Le Liban manque de tout, d'électricité, de carburant, de médicaments et surtout d'une classe politique intègre et compétente, incapable de se mettre d'accord et d'œuvrer pour le bien du pays. Voilà pourquoi bon nombre de Libanais attendent beaucoup de la venue du FMI. On va en parler avec le politologue spécialiste du Moyen-Orient, Hasni Abadi. Rendez-vous à 6h10. À la une également, Omblin, cette proposition de loi qui offrirait la possibilité de changer à tout moment les contrats d'assurance emprunteur attachés au crédit immobilier, avec à la clé, pour de nombreux Français, potentiellement de belles économies.
Oui, adopté à l'Assemblée nationale, le texte examiné en commission au Sénat demain pourrait être modifié par le groupe des sénateurs LR et les centristes. Ils souhaitent revenir à la résiliation annuelle déjà existante et estime qu'une libéralisation de la résiliation à tout moment se ferait au détriment des personnes plus fragiles, c'est-à-dire des personnes âgées ou des personnes à risque. Faux, dit la parole de l'APCAD, l'association pour la promotion de la concurrence en assurance des emprunteurs. Elle sera notre invitée à 5h45.
Enfin, on terminera avec votre partition, Lynn.
Le groupe phare du rock français emmené par ce chanteur au look dandy et à la moustache fine. Vous laissez 4 compagnons musiciens, la partition de Feu Chatterton à 6h20.
Vous avez l'essentiel du programme, on commence avec la météo. Bonjour Anissa Haddadi.
Bonjour Julien, bonjour Omblin.
Bonjour.
Il a l'air de faire un peu moins froid ce matin.
Oui, on l'a senti, enfin un petit peu plus doux, les gelées sont en tout cas
Je n'ai pas mon
écharpe. Il n'y a pas l'écharpe, voilà. Donc c'est le baromètre hein, de toute façon. Hein, quand on voit Julien sans l'écharpe, c'est qu'il fait bon. Alors bon, on a des températures de saison. On a des gelées surtout moins sévères. On a moins 5 à Bourg-Saint-Maurice actuellement, moins 3 à Brive, moins 2 à Mulhouse. On a 0 degrés à Clermont-Ferrand. Hier, on avait quand même moins 6, hein, donc ça va un petit peu mieux. 3 degrés à Paris et 6 à Nice. Alors cet après-midi, les températures sont stationnaires quasiment comme hier, situées entre 3 et 15 degrés. Dans le ciel, aucun changement. On a toujours beaucoup de brouillard ce matin. Des brouillards parfois givrants sur le centre-est, donc soyez extrêmement prudents. Il n'y a qu'au bord de la Méditerranée et en montagne que le ciel est clair. Et cet après-midi, le ciel va rester très nuageux sur la moitié nord du pays, toujours ensoleillé dans le sud. On a quand même encore, comme hier, de belles éclaircies sur les côtes de la Manche.
C'est noté, merci beaucoup Anissa Haddadi. Très bon réveil à tous à l'écoute d'Europe 1. Il est 5h. Des policiers qui contrôlent des passes sanitaires. La mission est normale mais devient dangereuse. Depuis le début de l'année, 18 commissariats ont reçu des menaces, dont certaines prises très au sérieux. C'est une information Europe 1. Autre information qu'on vous révèle ce matin, je vous en parlais dans le sommaire, l'Église de France s'engage dans la campagne présidentielle. La conférence des évêques de France publie ce matin une déclaration intitulée « L'espérance ne déçoit pas », un texte pour éclairer les catholiques à moins de 3 mois du premier tour. Et puis, le retour du fils prodigue, Novak Djokovic a atterri à Belgrade hier après son expulsion d'Australie. Malgré cet épisode fâcheux, le champion serbe reste le héros national, comme dans son club où s'est rendu notre envoyé spécial.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Le premier journal de ce mardi 18 janvier vous est présenté par Alban Le Prince. Bonjour Alban.
Bonjour à tous. On commence ce journal par cette information inquiétante que vous révèle Europe 1 ce matin. Depuis le début de l'année, au moins 18 commissariats ont reçu des mails de menaces, soit un tous les jours. La raison, les contrôles de passe sanitaire. Les expéditeurs Gladys Lafitte vont même jusqu'à évoquer l'usage d'armes à feu.
Oui, et parfois la menace est sans équivoque. Nous sommes un groupe de plusieurs personnes équipées pour rendre justice. Avec une détermination et une préparation redoutables, nous ouvrirons le feu. Voilà un extrait de mail reçu dans certains commissariats, comme à Asnières-sur-Seine ou à Béziers dans l'Hérault. Au total, 18 hôtels de police ont été destinataires de propos similaires, où l'expéditeur menace de s'en prendre physiquement aux policiers qui contrôlent les passes sanitaires. Une menace encore en cours d'évaluation selon les endroits. À Paris, une enquête a été ouverte pour les faits concernant la région parisienne. Pour Rémi Alonso, secrétaire départemental de l'Hérault du syndicat de police Alliance, cela doit être pris au sérieux.
N'importe qui arrive à frapper à peu près n'importe où et n'importe quand, même si ça reste des actes isolés, quelquefois de personnes déséquilibrées. Il y a eu des consignes qui ont été passées pour que les fonctionnaires de police soient vigilants.
Difficile à ce stade de dire qui se cache derrière ces mails ou même s'ils sont liés entre eux. Le ou les expéditeurs souhaitent en tout cas rester anonymes puisque pour certains commissariats ayant reçu le même mail, l'adresse de l'expéditeur est temporaire et a priori basée à l'étranger.
Merci Gladys Laffitte, journaliste au service police-justice d'Europe 1.
Il l'avait annoncé, c'est maintenant officiel. Une soixantaine de députés emmenés par les Insoumis et les sénateurs socialistes ont saisi le Conseil constitutionnel hier contre le projet de loi instaurant le pass vaccinal.
La question qui se pose d'ailleurs, c'est celle de son utilité. 90% des Français ont un schéma vaccinal complet. La décrue a commencé, estime de son côté Arnaud Fontanet, membre du Conseil scientifique. Et lorsqu'on regarde les chiffres, la situation demeure stable en réanimation. Les contaminations restent toujours élevées, mais on constate une embellie sur le taux d'incidence, Yasmine Akatou.
C'est-à-dire le nombre de cas pour 100 000 habitants diminue dans certaines régions. Des régions clés comme l'Île-de-France, la Corse ou encore le Grand Est. Au niveau national, les entrées en soins critiques ralentissent elles aussi. 6% d'admissions en moins sur les 7 derniers jours. Mais Didier Pittet, épidémiologiste, interprète cette accalmie avec prudence.
Ces diminutions, elles peuvent être temporaires. Nous sommes toujours amenés à continuer à respecter les consignes, même si les chiffres sont un tout petit peu meilleurs que ce qu'on pourrait attendre.
Le nombre d'hospitalisations quotidiennes hors soins critiques est, lui, toujours en hausse et continuera de grimper dans les prochains jours. Les hôpitaux devront donc faire face à l'afflux de nouveaux patients pendant quelques semaines encore. Certains épidémiologistes évoquent le mois de mars avant d'arriver au creux de la cinquième vague.
Yasmine Akatou. Une fuite dont se serait bien passé l'exécutif alors qu'une nouvelle grève est annoncée dans l'éducation nationale jeudi. Mediapart rapporte que Jean-Michel Blanquer était en vacances à Ibiza lorsqu'il a dévoilé le nouveau protocole sanitaire aux Parisiens le 2 janvier, soit quelques heures seulement avant la rentrée scolaire. Une interview réalisée en visio qui n'a rien d'extraordinaire, répond le ministère. L'opposition appelle quant à elle à sa démission.
La situation sanitaire inquiète également de l'autre côté de la planète. En Chine, c'est la douche froide pour les amateurs de sport.
Oui, le comité d'organisation des JO de Pékin annule la vente de billets pour le grand public. En cause, une situation épidémique jugé compliqué, alors que nous sommes à moins de 3 semaines du début de la compétition. Notre correspondant sur place, Sébastien Lebelzik.
C'était l'une des promesses du comité d'organisation de Pékin 2022. Les gradins ne seront pas vides et contrairement à Tokyo, il y aura bien du public. Mais à moins de 3 semaines du début des épreuves, coup de théâtre. Il aura fallu un seul malade à Pékin pour sonner l'alerte et revenir sur cet engagement. La billetterie n'était de toute façon pas ouverte et seuls quelques spectateurs triés sur le volet pourront donc assister aux compétitions, mais sur invitation, précise le communiqué du comité d'organisation. Et c'est le porte-parole de la diplomatie chinoise qui justifie cette volte-face.
Nous disons toujours que les Jeux olympiques d'hiver de Pékin seront sûrs, rationalisés et splendides. La première chose à faire est d'assurer la sécurité.
C'est donc pour des raisons de sécurité que les spectateurs seront exclus de ces Jeux. Le comité d'organisation n'a pas précisé comment ces personnes seront sélectionnées, ni si elles devront effectuer une quarantaine avant de se rendre dans les stades et au bord des pistes de ski. Selon certaines sources, des invitations pourraient notamment être données à des fonctionnaires ou des employés d'entreprises publiques. Pékin, Sébastien Lebelzik, Europe 1.
On revient en France à 5h passées de 6 minutes sur Europe 1. La France où la campagne présidentielle bat son plein. Alors pour aider les fidèles à faire un choix parmi tous les candidats, l'Église de France s'engage.
Ouais, c'est un document que nous vous révélons ce matin sur Europe 1. La conférence des évêques de France publie ce matin une déclaration. L'espérance ne déçoit pas, c'est son nom. Elle ne consiste pas à donner une consigne de vote, mais plutôt à éclairer ceux qui ont du mal à choisir. Alexandre Chauveau, vous avez eu accès à ce document. Qu'est-ce qu'il faut en retenir ?
D'abord, les catholiques sont appelés à voter. Le texte parle même d'un devoir. Et puis le document livre des éléments de réflexion sur toute une série de sujets. Exemple avec la fin de vie qui ne peut être traitée, je cite, « ni avec l'acharnement thérapeutique, ni avec l'euthanasie ». Il est également question de l'allongement de la durée légale de l'IVG, qualifiée de violence à l'égard de la société, ou de l'inclusion des personnes en situation de handicap, récemment au cœur de l'actualité. Alors la conférence des évêques de France ne prend parti pour aucun candidat, mais rappelle son attachement aux valeurs de partage. Le repli sur soi ne mène ni à la paix, ni au bonheur, est-il écrit. Globalement, la notion de vivre ensemble est mise en avant. La loi sur le séparatisme votée l'an dernier est ainsi vue comme une atteinte à la liberté de culte et la rencontre entre différentes religions considérée comme une chance pour l'avenir. Enfin, le document alerte sur la dette, sur l'excès technocratique de l'Union européenne ou la nécessité d'être généreux avec les migrants. Les échéances qui approchent seront cruciales, mais la peur est toujours mauvaise conseillère, conclut le texte.
Merci Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. Et pour en parler, Sonia Mabrouk reçoit tout à l'heure Monseigneur Rouget, évêque de Nanterre à 8h13 sur Europe 1.
On prend la direction de Melbourne en Australie, suite du premier tour de l'Open d'Australie, effectivement ce matin.
Et des résultats cette nuit pour les Français. La qualification pour le second tour de Richard Gasquet face à Hugo Humbert. Élimination en revanche dès le premier tour pour Hugo Gaston. Un Open d'Australie qui se joue sans Novak Djokovic, expulsé du pays car non vacciné. Le numéro 1 mondial est arrivé hier à Belgrade, en Serbie. Dans son pays, on le voit comme un héros, notamment dans son club de tennis. Les jeunes espoirs serbes n'espèrent qu'une chose maintenant, le retour du joker sur les courts. Le reportage de notre envoyée spéciale à Belgrade, Caroline Baudry.
Les baskets blanches tachées de terre battue, Alexa, 16 ans, attaque la balle, déterminée comme son idole Djokovic.
Bien sûr que l'affaire australienne va avoir un impact sur sa carrière, mais à chaque injustice, il ressort encore plus fort.
Son partenaire de jeu, Victor, n'a comme lui qu'une chose en tête, sa future carrière professionnelle. Dans les pas de Novak, le numéro 1 mondial a foulé les mêmes cours, ici, au club des partisans.
Il est un modèle pour moi. C'est vraiment pas bien ce qu'ils lui ont fait en Australie. Comme dit Alexa, c'était son tournoi, celui qu'il devait gagner.
Sur un court voisin, Masha, 14 ans, sourit, elle aussi en sport-études, et persuadée que le meilleur est à venir dans la saison de Novak.
C'est le premier dans le monde, Novak. Je regarde lui et je veux être comme ça. Je l'ai vu dizaines de fois. On parle avec lui, c'est très, très bien. Ça va être très bien s'il vient.
Les trois pépites du tennis serbe espèrent être aux premières loges quand leur héros viendra s'entraîner ici pour relancer sa saison. Belgrade, Caroline Baudry, Europe 1.
Et c'est ainsi que se conclut le journal d'Alban Le Prince. Merci beaucoup Alban.
Il est 5h09, c'est l'heure des courses, le pari gagnant de Thierry Léger. Bonjour Thierry.
Bonjour Omblin, il y aura des courses cet après-midi sur l'hippodrome de Vincennes et mon pari gagnant sera le 210 Just Princess, lauréate avec la manière de ses deux premières courses en province, à Cordemay le 28 novembre, puis à Amiens le 21 décembre. Elle va effectuer des débuts très attendus sur l'hippodrome de Vincennes, le Temple du Trot. Estimée et ménagée par son entourage, cette pouliche dotée d'un physique des plus séduisants me semble être taillée pour réussir à Vincennes et je la crois donc capable de conserver son invincibilité. Notez bien, pour Vincennes, réunion 1, dans la deuxième course, le numéro 10, Just Princess.
Just Princess, le numéro 10. Merci Thierry Léger, vous revenez dans une demi-heure pour les pronostics du Quintet. Nous, on revient dans moins d'une minute avec trois articles sélectionnés dans la presse du jour.
Oui, au menu du pressing, les vendeurs de CBD retiennent leur souffle, le bulldog français, un chien très prisé aux États-Unis, et la fabrique des Miss. À tout de suite.
Omblin Roche et Julien Pierce sur Europe 1.
5h10, bon début de matinée sur Europe 1. C'est le pressing de ce mardi 18 janvier avec nous, comme chaque jour, Martin Lange.
Bonjour Martin.
Bonjour Omblin, bonjour Julien, bonjour à tous.
Bonjour.
On commence avec les unes de vos journaux, comme chaque matin. Passe vaccinal, ce qui va changer, titre Le Parisien aujourd'hui en France. Une affirmation qui, étonnamment, se transforme en question dans les pages intérieures. À quoi va-t-il vraiment servir, s'interroge en réalité Le Quotidien, alors que le pic de la cinquième vague semble atteint. Le Figaro, pour sa part, nous emmène de l'autre côté de la Manche ce matin. Boris Johnson, bataille pour sa survie politique, voilà le titre à la une. Secoué par le Partygate, le Premier ministre britannique résiste aux appels à démissionner et contre-attaque avec une série de mesures populaires dans les rangs conservateurs. Et puis quand la Chine menace la croissance mondiale, c'est l'inquiétude qu'exprime en une les Échos. La stratégie zéro Covid de Pékin provoque des fermetures d'usines massives, ce qui fait redouter de nouvelles pénuries. Voilà pour les unes. Omblin, quel article avez-vous sélectionné ce matin ?
Les feuilles et les fleurs de CBD dans la tourmente et la menace de fermeture des boutiques qui vendent des produits à base de CBD. C'est un focus dans les Échos ce matin. Rappelons d'abord que le CBD, ou appelé chanvre bien-être, est un dérivé du cannabis sans effet psychotrope. Des études en recherche fondamentale sur le CBD ont montré qu'il avait notamment des propriétés anxiolytiques. Remontons ensemble le fil des événements. En novembre 2020, une décision de la Cour de justice européenne reconnaît que le cannabidiol n'est pas un stupéfiant. En juin dernier, la vente des produits contenant du CBD est autorisée en France dans la mesure où ils contiennent moins de 0,2% de THC, la fameuse molécule à l'origine des effets psychotropes de la plante de cannabis. Dès lors, des boutiques fleurissent un peu partout. En France, il en existe près de 2000 aujourd'hui. Cela représente des milliers d'emplois et des centaines de millions de chiffres d'affaires. Coup de théâtre, le 30 décembre, le gouvernement prend un arrêté interdisant la vente et la consommation de feuilles et de fleurs de CBD, deux produits qui représentent 90% des ventes. L'argument avancé, la difficulté pour les forces de l'ordre de s'assurer que ces fleurs contiennent moins de 0,2% de THC, le taux légal. Le reste des ventes dans les boutiques spécialisées en CBD, c'est essentiellement des huiles et des vaporisateurs. Mais c'est très très peu par rapport aux chanvres, par rapport aux fleurs et aux feuilles. Les acteurs du secteur se rendent à l'évidence. S'ils ne peuvent plus vendre la fleur de chanvre, ils risquent de mettre la clé sous la porte. Le 14 janvier, les professionnels du CBD plaident leur cause devant le Conseil d'État. Leur argument à eux, cette interdiction est une atteinte grave aux libertés fondamentales. La décision devrait être rendue cette semaine. Privée de fleurs de chanvre, les boutiques de CBD craignent de fermer. C'est dans les Échos.
Et puis aussi la question des stocks, parce que nombre de ces magasins avaient beaucoup de fleurs de CBD en stock et aujourd'hui, ils ne savent plus trop quoi en faire. Non. Et si la décision est confirmée, ça sera un énorme manque à gagner.
Alors certains cependant, continue de vendre quand même
sous le manteau.
Sous le manteau, non, dans les boutiques, en incitant les consommateurs à utiliser le CBD en tisane, évidemment.
Voilà, merci beaucoup Omblin. Martin, à vous.
Oui, avec un phénomène qui inquiète les propriétaires de chiens aux États-Unis, l'explosion des vols, mais pas de n'importe quelle race, non. La cible privilégiée des voleurs, hein, les bulldogs français, vous savez, c'est ces petits modèles de chiens avec la face un peu écrasée, considérés comme les chiens des stars. Ils se revendent des milliers de dollars au marché noir. West France a par exemple retrouvé Marieke Bayens, une Californienne de 27 ans, qui s'est fait braquer avec une arme par deux malfrats qui en avaient après Merlin, son adorable petit bulldog français. Mais cette agression est loin d'être un cas isolé. Chicago, Los Angeles, New York, aucune grande métropole américaine n'est épargnée. La victime la plus célèbre, c'est évidemment Lady Gaga. L'an dernier, des hommes armés ont enlevé ses deux chiens, Koji et Gustave, blessant même l'employé chargé de les promener. La popstar a offert une récompense de 500 000 dollars pour les récupérer. À ce prix-là, elle a évidemment retrouvé ses deux compagnons à poil, mais tous n'ont pas cette chance.
Alors pourquoi les bulldogs sont si prisés par les voleurs, Martin ?
Eh bien tout simplement parce qu'ils valent très cher, entre 3 500 et 5 000 dollars en moyenne, plus de 4 000 euros. Et puis par ailleurs, il est difficile de s'en procurer, c'est ce qu'explique la vice-présidente du club canin américain à Ouest-France. C'est une race qui n'a pas de grande portée, en avoir un, donc peut prendre énormément de temps, d'où l'augmentation des vols. Cependant, cette spécialiste note que le recours à la violence est un phénomène nouveau. Alors pour se prémunir face à cette vague de dog-napping, c'est comme ça qu'on les appelle,
dog-napping,
il existe des consignes claires. Écoutez Julien, je sais que vous avez des animaux de compagnie, ça peut peut-être vous intéresser.
Ouais, j'ai un berger allemand, donc je pense que pour le voler, c'est un peu plus compliqué.
Exactement. Poser une puce électronique sur votre compagnon, voir un collier GPS, condamner les chatières de porte si vous avez une maison, ou encore cacher ses papiers d'identité. Dernier conseil, ne surtout pas poster des photos sur les réseaux sociaux. Consigne allègrement ignorée par les people, les Madonna, DiCaprio et autres Snoop Dogg, qui posent fièrement sur Instagram avec leur franchise. Pas étonnant donc qu'Hollywood soit devenu l'épicentre des dog napping. Pourquoi les vols de bulldogs français se multiplient aux États-Unis ? C'est à lire donc sur le site de West France.
Je crois qu'on les appelle.
Voilà un petit bulldog français.
Ouais. Vous le reconnaissez au timbre ?
Ouais. Là, on était plus sur du labrador, je crois. Hein. Mais parce que voilà, effectivement, on est plus sur du Frenchie, comme ils disent aux États-Unis. C'est comme ça qu'ils les appellent. Merci beaucoup, Martin. Je vous racontais hier, ici même, le surinvestissement des parents chinois avec leurs enfants qui doivent être les meilleurs à l'école, et ce, dans toutes les matières. Eh bien, ce matin, je vous emmène aux Philippines, où là aussi, les parents exigent beaucoup de leurs descendants, enfin de leurs filles pour être exact, et plus précisément celles qui ont eu la chance d'avoir Aphrodite, la déesse de la beauté, se pencher sur leur berceau.
Qu'est-ce
qu'est-ce qu'on a Joli Minois, sourire Colgate, jambes interminables et pose lascive. Les Philippines, c'est le royaume des concours de beauté, comme nous le raconte cet article du Figaro.fr. Chaque île, chaque municipalité, chaque quartier possède son concours. Car ici, la beauté est reine et les reines de beauté élevées au rang de divinité. Les plus connues sont capables d'ameuter des dizaines de milliers de Philippins en délire, poireautant des heures durant en plein cagnard dans l'espoir de voir une mèche de cheveux. La moindre apparition d'une Miss fait l'objet de débats exaltés sur Internet. Le choix d'un mauvais accessoire lors d'un concours, par exemple, peut enflammer le web et contraindre les candidates à formuler des excuses publiques. Quant aux chaînes de télévision, elles font leur chou gras des dernières tenues portées ou de la situation amoureuse de ces jeunes femmes, pas comme les autres, à tel point que ce genre de programme a éclipsé il y a quelques mois la cérémonie récompensant la première Philippine à recevoir le prix Nobel de la paix.
Ouais, quand même.
Vous comprenez, c'est pas assez glamour. Il faut dire qu'en la matière, le pays a de quoi être fier. Il compte à son palmarès 4 titres de Miss Univers, 1 titre de Miss Monde, 6 titres de Miss International et 4 titres de Miss Terre, Miss Earth en anglais. Autant de victoires qui alimentent l'obsession des Philippins. Surtout des parents quand ils se rendent compte que leur petite dernière répond au canon de beauté contemporain. Alors pour maximiser leurs chances de diadème et surtout de fortune, ils n'hésitent pas à envoyer leur descendance dans des beauty camps, des camps de beauté. En bon français, on en trouve partout aux Philippines et les plus connus comme Aces and Queens à Manille sont ultra sélectifs. Ils ne sélectionnent que 10 candidates par an sur les centaines de candidatures. Le programme, des heures d'entraînement pour travailler posture et déhanchée. On y apprend à défiler avec des talons de 16 cm et à les supporter toute la journée, sans oublier la routine fitness, le régime personnalisé, les cours de coiffure et de maquillage et le plus important, apprendre à répondre aux questions des Jean-Pierre Foucault locaux. Le jeu en vaut la chandelle, car une tête couronnée, c'est l'assurance d'une carrière bien rémunérée et surtout d'une influence considérable. Une fois le diadème posé, les Miss aux Philippines acquièrent, il faut le dire, immédiatement une totale liberté de parole, ce qui est rare dans ce pays. Liberté de parole aussi bien sur des questions politiques que sociales. Il y a 2 ans, par exemple, la toute dernière Miss Univers de nationalité philippine s'est prononcée en faveur de l'utilisation thérapeutique de la marijuana. Une prise de position qui, de l'aveu même d'un défenseur du projet de loi, a été décisive dans son adoption. Les Philippines, la fabrique des Miss, c'est à lire sur le site du Figaro.
Merci beaucoup Julien, et c'est ainsi que se termine le pressing. À tout à l'heure Martin pour les sports.
À tout à l'heure.
Europe Matin. Omblin Roche et Julien Pierce.
5h19 sur Europe 1, les principaux titres de ce mardi, c'est le journal permanent, Alban Le Prince.
Et les parents doivent encore s'organiser. Nouvel appel à une grève massive après-demain lancée par plusieurs syndicats et fédérations de parents. Ils dénoncent le chaos engendré par la gestion de la crise sanitaire. Les écoles, collèges et lycées sont concernés. Pour ne rien arranger, ces révélations de Mediapart confirmées par le ministère de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer était à Ibiza lorsqu'il a dévoilé le très controversé protocole sanitaire le 2 janvier aux Parisiens, quelques heures seulement avant la rentrée scolaire. L'opposition appelle le ministre à démissionner. Des records à la pompe la semaine dernière. Les prix des carburants n'ont jamais été aussi élevés depuis de nombreuses années, selon le chiffre du ministère de la Transition écologique. Hier, 1,62€ en moyenne le litre de diesel, 1,68€ pour le sans-plomb 95. Et puis à Roubaix, une explosion due à une fuite de gaz en début de soirée hier dans un appartement. Bilan 4 blessés, dont 2 graves. L'enquête est en cours.
Les initiatives en France, ces petites et grandes actions qui font bouger les lignes. C'est chaque matin à 5h20 et aujourd'hui, Julien, on prend la direction de la Gironde.
Bonjour Alice Tourbier.
Bonjour.
Merci d'être en ligne avec nous ce matin. Vous êtes la propriétaire et directrice des Sources de Caudalie, un hôtel 5 étoiles doté d'un restaurant doublement étoilé ainsi que d'un spa. Bref, c'est un endroit de rêve situé à Martillac au sud de Bordeaux qui depuis quelques jours se sépare d'une partie de son mobilier. Pourquoi cela ? Expliquez-nous.
Eh bien, nous avons ouvert il y a 20 ans maintenant, donc c'est toujours bien quand même si l'hôtel a été très bien entretenu toutes ces années. Là, on donne un grand coup de neuf, un grand coup de propre, et du coup, on change un peu le mobilier. On va rester dans des objets chinés qui ont fait le charme de notre maison, mais on se sépare de rideaux, de meubles, de choses que je trouve un peu moins d'actualité pour la nouvelle décoration.
Vous vous séparez de combien d'objets en tout ? Vous avez fait le compte ?
On a fait le compte, on a plus de 350 lots, je crois. Donc c'est quand même une belle vente. On reçoit beaucoup d'enthousiasme de la part des personnes qui ont entendu parler. Donc je pense que ça va bien marcher.
C'est une vente aux enchères qui se passe en ligne.
Exactement, une vente aux enchères en ligne. On a fait un partenariat avec ADER EP, qui est venu faire l'inventaire des lots, qui les a pris en photo. Donc, c'est assez bien fait. On était habitué à ces ventes annuelles parce qu'on est en période de fermeture. Là, on rouvre tout début avril. Et chaque année, comme ça, on fait un grand coup de neuf. Donc, on avait déjà fait des ventes qui se passaient en réel. Mais là, les conditions sanitaires ne nous permettent pas. Il y a souvent un peu de cohue, de bousculade, parce que les gens veulent arriver les premiers. Donc, on a fait ce choix de vente aux enchères au profit d'une association caritative. Donc, c'est pour ça que tout le monde a envie que les enchères prennent bien et que ça monte.
Quelle association avez-vous choisi ?
On a choisi la Maraude du Cœur Bordeaux, qui est une association locale engagée au profit des plus démunis. Et je trouve qu'en cette période où il fait froid dehors, ben, ils viennent leur porter des repas et puis un peu de confort. Donc, on avait déjà travaillé ensemble en leur donnant toutes nos serviettes et couvertures dont on n'avait plus l'utilité, ainsi que des produits de toilette, du gel lavant, du shampoing, des choses quand même de première nécessité. Donc, c'est un partenariat qui se perdure et c'est vraiment eux les héros de cette aventure, si je puis me permettre, parce que c'est des bénévoles qui s'engagent au quotidien.
Alors, vous nous le disiez il y a un instant, si vous vous séparez de tout ce mobilier, c'est parce que vous vous lancez dans de grands travaux de rénovation. Tout va y passer, l'hôtel, le restaurant, le spa ?
Pas tout. Alors, on le fait un peu petit à petit. Là, c'est notre restaurant 2 étoiles Michelin, La Grand Vigne, qui va être entièrement redécoré. Donc, on met en vente les tables, les chaises, des petits meubles porte-sacs, comme ça se fait dans les restaurants étoilés. Mais après, sinon, c'est un grand coup de peinture, puis changement de moquette, de cadre. Le spa, on le laisse tel quel, parce qu'il est très beau et puis il a été rénové récemment également. Et c'est en fait une vingtaine de chambres, les chambres historiques qu'on appelle le comptoir des Indes, la Bastide des Grands Crus. Comptoir des Indes, il y a un esprit un peu asiatique, donc on se trouve quelques très belles pièces de mobilier que j'avais chinées avec des meubles en bois laqué qui ont des esprits un peu chinois presque. Et la Bastide des Grands Crus, là on rend hommage au monde du vin de Bordeaux, donc on retrouve par exemple des rideaux avec des grappes de raisin ou ce genre de choses, mais c'est à chaque fois c'est des belles maisons d'édition de tissus.
Donc j'imagine que c'est en chinant que vous avez trouvé le futur mobilier.
Ben exactement, voilà, j'écume en ce moment les salles de vente aux enchères également, et puis je fais des grands déballages là où on trouve des meubles qui ont déjà leur histoire, et ça me plaît que la boucle comme ça continue.
Oui. Ça fait depuis vendredi dernier que cette vente aux enchères est ouverte. Ça donne quoi ? Est-ce qu'il y a beaucoup d'offres ?
Alors, notre partenaire qui a plus l'habitude que moi est très enthousiaste. Elle m'envoie tous les jours les chiffres de la veille. Moi, je savais pas que ça fonctionnait comme ça. Mais normalement, sur une vente aux enchères, tout va se jouer sur la dernière journée. Parce que c'est le principe, on est en vente pendant une semaine et les surenchères se font à la fin. Mais aujourd'hui, alors que la vente n'a commencé que depuis jeudi dernier, on a déjà plus de 70% des lots sur lesquels il y a eu des enchères. Et du coup, les fourchettes basses d'évaluation sont déjà dépassées. Et donc, on serait content que ça continue de monter.
Et pour enchérir, il faut aller sur le site ader-ep.com. Merci beaucoup, Alice Tourbier, de nous avoir parlé de cette vente aux enchères que vous organisez, vente du mobilier de votre bel hôtel, Les Sources de Cotalie, à Martillac, en Gironde. Très bonne journée à vous.
Merci et très bonne journée à vous également.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Bienvenue sur Europe 1, on vous souhaite un excellent réveil si vous venez d'ouvrir un œil. On est avec vous pour ouvrir le deuxième, et on est surtout avec vous pour vous informer et vous divertir. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire dans la prochaine demi-heure, notamment avec votre rendez-vous culture dans 20 minutes.
Et le mardi, c'est littérature. Nicolas Caro a choisi le nouveau roman de Raphaël Enthoven, car oui, le philosophe écrit aussi des romans et des fictions. Ça s'appelle Krasnaya.
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 Avant cela.
Il y avait un A entre Krasnaya.
Avant cela, on va revenir sur cette proposition de loi qui vise à faciliter le changement d'assureur pour un crédit immobilier.
Oui, un texte qui permettrait aux emprunteurs de pouvoir changer d'assureur n'importe quand sans frais et de ne pas attendre la date anniversaire adoptée à l'Assemblée nationale. Il pourrait finalement ne pas voir le jour, examiné en commission au Sénat demain. Le groupe des sénateurs LR et les centristes souhaite le modifier en profondeur. On en parle dans un quart d'heure avec la porte-parole de l'APCAD, l'association pour la promotion de la concurrence en assurance des emprunteurs.
La météo, Anissa Haddadi, attention, beaucoup de brouillard encore ce matin.
Oui, le même scénario hein, avec cet anticyclone qui bloque l'humidité de la nuit au sol et avec les températures négatives par endroits. Ça peut être assez difficile de circuler. Alors les brouillards concernent comme hier toutes les régions situées au nord de la Loire sans exception, avec un risque de brouillard givrant sur les routes du nord-est. Les brouillards touchent aussi les régions du sud hein, comme la vallée de la Garonne où là aussi ça peut être givrant sur les routes. Le Lyonnais est concerné aussi par ces nuages bas au bord de la Méditerranée et dans les Alpes et les Pyrénées. Là on a une matinée très ensoleillée. C'est vrai que depuis plusieurs jours c'est en montagne hein, qu'il fait le plus beau. Alors cet après-midi, le soleil va rester bien présent sur les régions méridionales, sauf en Nouvelle-Aquitaine, hein, où là, le ciel reste couvert. Et puis, alors, sur tout le reste du pays, c'est-à-dire toute la moitié nord, c'est encore gris aujourd'hui. Alors, les températures, il fait un petit peu moins froid, mais enfin, couvrez-vous, on est en hiver. Hein. Moins 5 à Rodez, moins 4 à Aurillac, moins 2 à Saint-Étienne et Albi, moins 1 à Lille ce matin, 0 à Bordeaux, 1 degré pour Paris, 4 à Rennes et Nice. Cet après-midi, on a 3 degrés à Saint-Étienne, 6 à Nantes, 8 à Paris et 15 à Bastia. Et puis, actuellement, je peux vous dire qu'il fait pile poil 1 degré à Voiron dans votre Isère, Julien. C'est Antoine qui nous le signale sur Twitter.
Absolument, et on l'embrasse et on le salue. Merci beaucoup Anissa Haddadi. Très bon réveil à tous à l'écoute d'Europe 1. Il est 5h30.
Europe 1. La pharmacie, j'ai vu que c'était impossible aujourd'hui. Donc les laboratoires, il faut faire la queue. Ben là, c'est plutôt bien. En plus, il n'y a personne.
À la une de ce mardi, se faire tester sans descendre de sa voiture. Cet automobiliste de Meurthe-et-Moselle découvre un tout nouveau service qui fait fureur, le test drive. Il fallait y penser et ça marche. L'examen aujourd'hui à l'Assemblée nationale du projet de loi qui veut réformer l'adoption. Parmi les objectifs du texte, la possibilité d'ouvrir l'adoption aux couples non mariés. Le premier bilan des soldes après une semaine de prix cassés, c'est pas terrible. Les clients boudent les magasins et préfèrent acheter à distance. Les sites de e-commerce font par contre, eux, le plein de visiteurs. Et puis un concert de musique classique en totale improvisation. C'est la performance réussie et proposée par le trompettiste Ibrahim Malouf au musée d'Orsay.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Et à 5h30, le journal vous est présenté par Christophe Lamar. Bonjour Christophe.
Bonjour Julien, bonjour à tous. Il faut rester prudent, mais médecins et épidémiologistes l'assurent, le pic des contaminations est peut-être atteint, voire déjà passé dans certaines régions comme l'Île-de-France. Pas partout cependant, d'autant que l'on continue à tester beaucoup, plus d'un million de tests par jour en moyenne. À Tomblaine, en Meurthe-et-Moselle, on a mis en place un drive test, même principe que pour la restauration rapide. Sauf que là, vous ne venez pas pour manger, mais pour tendre les narines. Reportage Mélina Fachin.
En arrivant devant la tente blanche de ce nouveau drive test, même pas besoin de sortir de sa voiture, il suffit de baisser la vitre pour se faire dépister. C'est pratique, rapide et pour le responsable Thierry Péchet, cela permet de respecter encore mieux les gestes barrières.
Si vous rassemblez des personnes qui sont susceptibles d'être Covid+, dans un même lieu et que vous allez leur titiller les narines, automatiquement il va y avoir du virus dans la pièce. Donc là, dans la voiture, on limite au maximum les contaminations pour les professionnels et entre les personnes entre elles.
Et puis surtout, cela aide à désengorger les pharmacies et les laboratoires pris d'assaut.
Bonjour.
C'est justement pour gagner du temps que Peggy et sa fille de 15 ans, Margot, sont venues ici.
La pharmacie, j'ai vu que c'était impossible aujourd'hui, donc les laboratoires, il faut faire la queue. Là, ça fait plutôt bien, en plus, il n'y a personne.
C'est pratique.
Alors, mets bien ta tête sur l'appui-tête.
Ce nouveau drive et prend 100 rendez-vous. Il propose des tests PCR, antigéniques et même salivaires pour les enfants. En une première journée d'activité hier, une centaine de dépistages ont été effectués.
Et voilà, c'est tout bon.
Tomblaine, Mélina Fachin, Europe 1.
Et voilà, une politique de test à tout va que l'exécutif n'entend pas renier malgré le coût élevé pour l'État. Antigénique, PCR ou autotest, cela devrait coûter plus de 1,5 milliard d'euros selon le ministre délégué aux comptes publics, rien que pour le mois de janvier.
Une cinquième vague qui est peut-être en train de refluer, cela n'empêche pas les contaminations de rester à des niveaux très élevés.
287 000 cas positifs positifs en moyenne avec des disparités selon les régions. On parle bien de moyenne sur 7 jours. Le taux d'incidence recule en Île-de-France, par exemple. Et si le nombre de malades admis à l'hôpital est en légère hausse, les admissions en soins critiques s'orientent à la baisse. Un rappel à Paris. La préfecture a pris un nouvel arrêté rendant le port du masque obligatoire à l'extérieur dans les lieux très fréquentés, comme les marchés, les brocantes et à proximité des écoles et des grands magasins. Même chose en Loire-Atlantique, où le préfet vient de prendre les mesures identiques.
La colère des enseignants n'est pas retombée. Un nouveau jour de grève est déposé et c'est pour jeudi.
Et oui, et cette fois, le mouvement concerne les écoles, les collèges et les lycées. Appel à la grève lancée par une intersyndicale qui réclame des mesures plus fortes et davantage de moyens pour lutter contre la crise sanitaire. Mobilisation à laquelle ont décidé de se joindre 3 syndicats lycéens.
Un ministre de l'Éducation plus que jamais sous pression après des révélations de Mediapart.
Jean-Michel Blanquer a annoncé le protocole sanitaire de la rentrée scolaire du 3 janvier alors qu'il était en vacances à Ibiza. Le ministre en avait donné les détails dans une interview aux Parisiens la veille de la reprise des cours, c'est-à-dire le dimanche 2 janvier au soir. Méthode qui avait ulcéré les enseignants et déclenché un premier mouvement de grève.
C'est une proposition de loi qui fait débat et suscite la controverse. On parle de la proposition de loi qui vise à réformer l'adoption.
Un millier d'enfants sont adoptés en France chaque année. L'Assemblée examine en ce moment le texte qui vise à simplifier les démarches et assouplir les règles d'adoption, notamment pour les couples non mariés. C'est bien le seul amendement qui fasse consensus d'ailleurs. Les familles d'accueil, elles, se désespèrent de devoir attendre toujours trop longtemps pour pouvoir adopter. Reportage Zoé Pallier.
6 ans que Céline et Antoine bataillent pour adopter un enfant. Le couple a renoncé à passer par un organisme habilité, trop cher, puis à passer par l'État, trop lent. Résultat, ils ont monté tout seuls un dossier pour adopter un petit Ukrainien. Une démarche dite individuelle que la loi veut interdire.
Si la loi passe, on n'a plus de chance d'adopter un enfant là. Notre projet tombe à l'eau et c'est fin.
Eh ben, ça fait mal au cœur. Aujourd'hui, il y a très peu de pays qui permettent d'adopter des enfants, on va dire, jeunes. Et on sait très bien qu'aujourd'hui, passer par une institution d'État, c'est peine perdue.
Deuxième mesure controversée, les parents biologiques qui confient leurs enfants au dispositif d'aide sociale à l'enfance n'auront plus à donner leur consentement pour qu'ils soient adoptés. C'est un nid à contentieux, regrette la magistrate Marie-Christine Le Boursicot.
Ça ne passera pas auprès des juridictions, tant internes qu'internationales. Donc, au lieu de faire gagner du temps à ces enfants, on va les mettre dans un état de fragilité juridique. Au lieu de simplifier la procédure, ça risque de la complexifier.
Quant aux associations, elles dénoncent la mise en place d'un monopole d'État avec cette loi, qu'elles estiment contraire à l'intérêt des centaines d'enfants en attente d'adoption.
Explication Zoé Pallier.
5h passées de 35 minutes sur Europe 1 et ça fait une semaine tout juste que les soldes ont débuté, l'occasion de faire un bilan sommaire après un premier week-end de prix cassé.
Et on ne peut pas dire que l'on se soit bousculé dans les magasins, tous les secteurs ne sont pas logés à la même enseigne, bien sûr, mais globalement, le chiffre d'affaires est à la baisse, entre -15 et -35%, et on connaît hélas la musique. Les petits magasins indépendants souffrent, le e-commerce sourit. Une chose est sûre, Élise Dangean, cette première semaine morose donne souvent le ton de ce qui va se passer ensuite.
Oui, et sans surprise, ce sont les commerçants indépendants qui souffrent le plus de ce démarrage poussif des soldes. Le télétravail et la peur du virus ont des effets très concrets sur leur fréquentation. -35% par rapport à 2019 selon la fédération Allure. Quant à leur chiffre d'affaires, eh bien, ils reculent de près d'un tiers. Autre enseignement de cette première semaine, les Français dépensent moins que d'habitude selon la fédération française de l'habillement. Là, c'est l'effet inflation. Les grandes enseignes ne sont pas non plus épargnées. Selon le Procos, qui représente des marques comme Zara, Maison du Monde ou encore Sephora, la fréquentation a chuté de 30% par rapport à 2019 et les ventes en ligne ne permettent pas encore de compenser les pertes réalisées. En revanche, tous, y compris certains indépendants, sentent que les soldes fonctionnent beaucoup mieux en ligne. C'est donc le e-commerce qui devrait, une fois n'est pas coutume, sortir vainqueur de cette opération commerciale. Un exemple concret, en 5 jours de soldes, le site Cdiscount a enregistré 22 millions de visiteurs, soit presque autant qu'en un mois normal.
Et l'inflation qui rogne le pouvoir d'achat des ménages et notamment ceux qui possèdent une voiture, les prix moyens à la pompe ont établi un nouveau record la semaine dernière. 1,60€ le litre de gasoil, 1,68€ pour le samplon 95 et même 1,76€ pour le samplon 98. Conséquence de la flambée des cours de pétrole sur les marchés financiers.
J'ai fait le plein hier en samplon 98 avec un litre au-delà de 2€. Voilà, 2€ et 0,2 centimes, je crois. Voilà, en région parisienne, ça fait mal. C'est une performance rarissime et elle a lieu au musée d'Orsay à Paris, un concert de musique classique improvisée.
On le doit à Ibrahim Malouf qui crée pour l'occasion son premier orchestre spécialisé dans l'improvisation. Il s'est produit pour la première fois au musée d'Orsay ce week-end. Reportage Marie Giquel.
Il compare la composition de musique de film à un voyage en avion avec cette frayeur au décollage. Et visiblement, Ibrahim Malouf aime se faire peur avec ce nouveau pari improvisé avec le genre musical le plus élaboré, le classique.
Il s'agit de faire en sorte que des personnes qui ne se connaissent pas forcément très bien réussissent à dialoguer avec un langage instantané, direct, authentique, à travers le langage de la musique classique, mais à leur façon.
Lui orchestre l'écrit, mais c'est autour de sa figure que l'ensemble se réunit. Pour la première fois, Fantomas, le mort qui tue, l'un des opus de la série réalisée par Louis Feuillade il y a plus d'un siècle, sert de toile de fond à cette première improvisation.
C'est le plus vieux et le plus ancien, le plus connu des truands du cinéma, donc il m'inspire pas beaucoup confiance en vrai. Et parfois, vous savez, le silence peut être une des musiques les plus révélatrices de certaines choses. Donc parfois, ça peut être le silence qui parle de ce personnage qu'on appelle Fantomas.
L'esprit d'Ibrahim Malouf, lui, ne connaît pas le silence. Le musicien confie avoir en permanence une mélodie dans sa tête qu'il nomme la bande-son de sa vie.
Un reportage signé Marie Jiquel.
C'était le journal de Christophe Larmard. Merci beaucoup Christophe. On passe aux courses avec les pronostics du quintet. Thierry Léger, bonjour Thierry.
Bonjour Julien. Retour à Vincennes pour un quintet réservé aux chevaux âgés de 6 à 9 ans. Et parmi les 16 partants, je n'ai pas hésité à faire confiance au numéro 6, Cyrano de Bi, et 11, Hussein Toll, deux trotteurs d'origine suédoise qui restent tous les deux sur de bonnes performances à Vincennes. Et comme ils n'ont pas encore les gains en adéquation avec leurs moyens, ils devraient pouvoir sans incident conclure à coup sûr dans les 5 premiers. On leur opposera Armoura As, le numéro 8, à ne surtout pas condamner sur ses deux derniers échecs qui ne reflètent en aucun cas ce qu'il réalise le matin à l'entraînement, avec Goéland au fort, le numéro 15, lui aussi décevant lors de sa dernière course, mais qui auparavant s'était imposé avec la manière sur le même parcours que celui qu'il empruntera cet après-midi à Vincennes. Enfin les numéros 2, Gin Tonic Durand, 7, Vicky Lakshmi, 12, Ziotom Jet et 4, Goldman Court compléteront ma sélection. Mon pronostic, 6, 11, 8, 15, 2, 7, 12 et 4.
6, 11, 8, 15, 2, 7, 12, 4 des pronostics à retrouver sur Europe1.fr. Merci Thierry Léger.
Dominique Strauss-Kahn entre les mains de la police à New York.
L'abolition de la peine de mort en France.
Europe 1. Le jour où les grands faits historiques racontés à travers les archives d'Europe 1.
C'est aujourd'hui qu'un juge norvégien examine la demande de libération anticipée du tueur d'extrême droite Anders Behring Breivik. Bonjour Lord d'Autriche.
Bonjour Julien, bonjour Omblin, bonjour à tous.
C'est le 22 juillet 2011 que ce trentenaire tue 8 personnes dans le centre d'Oslo en Norvège, puis abat 69 autres personnes sur l'île d'Utøya dans un camp d'été.
Oui, il fait d'abord exploser une bombe dans le centre d'Oslo, près d'un bâtiment du gouvernement, et tue 8 personnes. Puis il se rend sur l'île d'Utøya, où se tient un camp d'été. Là, il abat froidement 69 personnes, des adolescents pour la plupart, dans un pays pas du tout habitué aux attaques terroristes, dit en juillet 2011 cette journaliste norvégienne.
Les Norvégiens ont l'habitude de mener une existence très paisible. Et pour nous, les attaques terroristes, ça se passe dans les autres pays, jamais en Norvège. Alors c'est très effrayant et très inhabituel pour nous.
2 heures après l'attentat d'Oslo, Anders Breivik se rend donc sur cette île à côté, l'île d'Utøya. Déguisé en policier, il ouvre le feu sur la foule, raconte la journaliste d'Europe 1, Catherine Boulet.
Il serait proche des milieux d'extrême droite et posséderait 2 permis de port d'armes.
La police a en particulier retrouvé des explosifs sur l'île et cherche à savoir si l'homme avait des complices.
Et donc tous les médias se concentrent sur le profil du tueur Anders Breivik, un homme, comme on vient de l'entendre, proche des milieux d'extrême droite, Laure.
Oui, l'homme est arrêté après la fusillade. On découvre qu'il a été membre d'un parti nationaliste et raciste, qu'il a été exclu de ce parti en 2006. Dans la vie, il s'occupait d'une ferme biologique, explique alors l'envoyé spécial d'Europe 1, François Claus.
C'est en profitant de son travail dans une ferme biologique qu'il avait acheté au début du mois de mai dernier une quantité énorme d'engrais chimiques, C'est visiblement ce qui lui a permis de constituer son explosif si destructeur.
6 tonnes d'engrais précisément qui ont servi à fabriquer la bombe. L'auteur de l'attentat avait posté une vidéo sur Internet le jour même dans laquelle il expliquait ses idées. Et quelques jours après son arrestation, Anders Breivik révèle aux enquêteurs qu'il avait d'autres cibles, le parti travailliste et le palais royal. Face à la justice, Anders Breivik est en permanence dans la provocation, raconte alors l'envoyé spécial d'Europe 1 sur place, Arthur Mbaché.
Ce matin, Breivik avait souri à l'énoncé du verdict. Ce soir, il a dit ne pas reconnaître la cour et il s'est excusé, non pas auprès des victimes, mais auprès des militants nationalistes pour ne pas avoir exécuté davantage de personnes.
Et cela fait maintenant 10 ans qu'Anders Breivik est en prison.
Merci beaucoup, Laure d'Autriche. C'était le jour où vous restez avec nous à suivre la proposition de loi qui vise à faciliter le changement d'assureur pour un crédit immobilier.
Omblin Roche et Julien Pierce.
Votre matinale info sur Europe 1.
Bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre. Il est 5h44 sur Europe 1. C'est un texte très attendu par de nombreux Français, surtout en ces temps de vie chère. Ce texte, c'est cette proposition de loi qui offrirait la possibilité de changer à tout moment les contrats d'assurance emprunteur rattachés au crédit immobilier. On en parle, Omblin, avec Isabelle Delange, porte-parole de l'APCAD, l'association pour la promotion de la concurrence en assurance des emprunteurs.
Bonjour Isabelle Delange.
Bonjour, Omblin Roche.
Adopté à l'Assemblée nationale en novembre dernier, le texte examiné en commission au Sénat demain pourrait être modifié par le groupe des sénateurs LR et les centristes majoritaires au Sénat. Alors, dans un premier temps, et en quelques mots, hein, Isabelle Delange, est-ce que vous pouvez nous rappeler en quoi consiste cette assurance emprunteur et comment ça se passe aujourd'hui lorsqu'on souscrit un prêt immobilier ?
Alors, l'assurance emprunteur immobilier, c'est l'assurance que votre prêteur exige pour vous accorder un crédit immobilier et qui va prendre en charge le remboursement de votre crédit en cas de décès ou d'incapacité de travail, invalidité.
Et donc aujourd'hui, il est possible de résilier à la date anniversaire son assurance emprunteur pour en changer ?
Tout à fait. Au-delà d'une année d'assurance, vous pouvez résilier à date d'échéance et substituer votre contrat par un autre à garantie équivalente, si votre prêteur est d'accord, et vous pouvez prendre un contrat plus intéressant financièrement.
Ce que propose ce texte défendu par la députée Patricia Lemoine, c'est donc de pouvoir changer d'assureur n'importe quand. Alors sur quoi vous vous basez pour dire que la libéralisation de la résiliation à tout moment est une bonne chose pour tout le monde ?
Alors c'est une bonne chose pour que la concurrence s'exerce librement et faire tomber les mesures dilatoires qui peuvent aujourd'hui s'exercer pour dissuader les emprunteurs de changer d'assurance. Et notamment parce qu'il est assez difficile d'avoir un droit de changer d'assurance emprunteur à date d'échéance annuelle quand on ne connaît pas cette date. Et aujourd'hui, cette date n'est pas connue des emprunteurs et elle freine leur capacité à changer. Les dispositifs actuels sont également assez complexes et c'est vrai que l'emprunteur ne peut pas toujours respecter son préavis en respectant tout ce process assez compliqué et la résiliation à tout moment lui permet de recommencer tous les jours s'il a échoué la veille sans complexifier ce processus.
Et donc le groupe LR et centriste au Sénat pense que cette résiliation à tout moment se ferait aux dépens des personnes plus fragiles, des personnes âgées et des personnes à risque. Que leur répondez-vous quand ils disent qu'une démutualisation va profiter aux profils les moins risqués ?
Alors, je vous avoue que je ne comprends pas vraiment le lien entre la démutualisation et le changement à tout moment. Il ne s'agit que de permettre aux personnes qui ont le droit de changer d'assurance aujourd'hui de le faire à une date qu'ils choisissent. Ce n'est pas une date d'échéance qu'ils ne connaissent pas. Je pense que ça ne peut absolument pas pénaliser les personnes plus fragiles puisque justement ce sont elles qui ont le plus de bénéfices à changer d'assurance, quand on parle notamment des personnes qui ont pu être malades, qui ont pu être assurées dans de moins bonnes conditions au départ. Bien entendu que pour elles, c'est encore plus important de pouvoir changer, parce qu'elles peuvent non seulement trouver financièrement peut-être plus intéressant, mais en même temps retrouver des garanties un peu plus standards. Donc je ne vois vraiment pas le rapport entre l'ouverture du marché et la démutualisation, et c'est un argument qui revient depuis la loi Lagarde, donc il y a plus de 10 ans.
Alors moi, ce que je comprends, c'est qu'en gros, les emprunteurs au profil jeune et aisé seront donc constamment démarchés par les assureurs, profiteront des taux plus intéressants, tandis que les autres, les personnes âgées, les personnes à risque, verront leurs primes sans doute augmenter. C'est un peu ce qu'ils défendent.
Oui, mais alors, les faits sont têtus. En réalité, la concurrence, aujourd'hui, même si elle peine, elle n'a amené que des baisses de tarifs partout. Les assureurs alternatifs aux banques ont baissé leurs tarifs à peu près partout. Il y a un rapport sur le marché qui a été établi par le comité consultatif du secteur financier en novembre 2020 qui l'explique. Les alternatives ont baissé les prix partout, les banques ont pu les baisser sur les plus jeunes et quelques-unes ont pu les augmenter sur les plus seniors. Mais en réalité, le marché évolue et il n'y a pas d'augmentation des tarifs pour les personnes plus fragiles. Aujourd'hui, c'est vraiment pas le cas. Quant aux personnes en risque aggravé de santé, je dirais que c'est la concurrence qui leur a permis de trouver plus de solutions. Et c'est toute l'idée de la convention Bellorget, puis de la loi Heras, qui, depuis 2003 quand même, a imposé que les personnes qui avaient un problème de santé, on ne puisse pas leur imposer l'assurance bancaire quand cette banque ne pouvait pas la lui procurer. Et donc, elles sont libres d'aller choisir l'assurance qu'elles trouvent sur le marché et ça leur amène évidemment plus de solutions. Et d'ailleurs, les chiffres de la convention Heras le montraient, puisque jusqu'en 2017, les acteurs alternatifs aux banques prenaient 40% des risques les plus aggravés, alors qu'ils ne représentaient que 12% de parts de marché. Donc, il n'y a pas de lien qui expliquerait moins de garanties pour des personnes en risque aggravé de santé face à la concurrence, bien au contraire.
Les banques détiennent 90% du marché de l'assurance emprunteur immobilier. Est-ce qu'on assiste ici à finalement un affrontement assurance contre banque ?
C'est plutôt un affrontement entre distributeurs. C'est-à-dire que c'est vrai que la banque est très bien placée pour proposer une assurance emprunteur au moment du crédit. Cette assurance, elle est assurée par un assureur qui est le partenaire de la banque. Mais il y a aussi d'autres modes de distribution, des agents, des courtiers, des salariés d'assurance qui veulent proposer cette assurance. Peut-être pas au moment du crédit, s'ils ne sont pas présents, mais en cours de prêt, assurés par les mêmes assureurs ou pas, hein, d'ailleurs, ce n'est pas le sujet. C'est deux modes de distribution qui s'affrontent. C'est l'assurance encapsulée dans le crédit ou l'assurance choisie comme toute autre assurance du particulier librement.
Merci beaucoup Isabelle Delange d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Je rappelle que vous êtes la porte-parole de l'APCA, de l'Association pour la promotion de la concurrence en assurance des emprunteurs. Merci, très bonne journée.
Merci, au revoir.
Europe Matin,
Omblin Roche et Julien Pierce.
Le retour de l'information à 6h10, le journal permanent, Alban Le Prince.
Syndicats et fédérations de parents appellent à nouveau à une grève massive dans l'éducation nationale. Jeudi, écoles, collèges, lycées sont concernés pour dénoncer le chaos engendré par la gestion de la crise sanitaire. Dans ce contexte, les révélations de Mediapart n'arrangent pas l'exécutif. C'est depuis Ibiza que Jean-Michel Blanquer a annoncé le nouveau protocole sanitaire dans les écoles le 2 janvier aux Parisiens, quelques heures seulement avant la rentrée scolaire. De quoi susciter l'indignation de l'opposition qui appelle le ministre à la démission. L'affaire Jubilard a pris un nouveau tournant hier. Des fouilles qui doivent durer plusieurs jours, voire plusieurs semaines, ont débuté à proximité du domicile du couple. Dans le Tarn, les enquêteurs s'intéressent notamment à une ferme évoquée par la nouvelle compagne et un ancien codétenu de Cédric Jubilard.
La littérature ne permet pas de marcher, mais elle permet de respirer. Voilà ce qu'a dit un jour Roland Barthes. Eh bien, on va prendre une grande bouffée d'air frais.
Oui, grâce à notre monsieur livre, Nicolas Caro. Bonjour Nicolas.
Bonjour Julien, bonjour Omblin.
Ce matin, Nicolas, vous nous parlez du nouveau roman de Raphaël Enthoven.
Oui, parce qu'en plus d'être philosophe, Raphaël Enthoven écrit depuis 2 ans de la fiction. Et laquelle ? Vous connaissez La ferme des animaux de George Orwell.
Oui, c'est un roman qui raconte la rébellion des animaux.
Exactement, et une fois livrés à eux-mêmes, ils forment des règles politiques nouvelles qui deviennent en fait une satire de l'Union soviétique. Bon, mais le stalinisme a vécu, Raphaël Enthoven s'attaque à notre propre système idéologique.
Avec des animaux donc.
Voilà, le roman s'appelle Krasnaya aux éditions de l'Observatoire, sur le modèle donc de La ferme des animaux, que l'on brandit moins à tout bout de champ que 1984, que l'on cite à tort et à travers, pas toujours à bon escient. Mais Raphaël Enthoven a choisi La ferme des animaux pour une bonne raison.
La raison pour laquelle ce texte est peut-être moins populaire, c'est qu'il parodie l'Union soviétique. Et que s'il y a bien un régime obsolète, c'est l'Union soviétique. Ce qui n'est pas obsolète, ce sont, comme toujours chez Orwell, les structures tyranniques qu'il met au jour et qu'on retrouve paradoxalement dans des dispositifs démocratiques. Et ça, c'est une magie commune à 1984 et à La ferme des animaux. 1984 manifeste génialement les travers de la cancel culture ou bien du gouvernement de la meute par la censure. La ferme des animaux, c'est la même chose. Et donc moi, j'étais hanté depuis des années par l'envie de reprendre le dispositif orwellien, donc des animaux, bien sûr, mais en essayant d'incarner non pas la tyrannie soviétique, mais l'hyper-démocratie où nous vivons.
Mais donc, qui sont les personnages ? Quels sont les animaux ?
Alors, il y en a plein. Il y a même un index à la fin pour s'y retrouver. Aussi, un glossaire des doctrines parce que chacun de ces personnages défend une idéologie. Il y a par exemple l'anima. C'est une sorte de président de la République à Krasnaya. L'anima qui s'appelle Vladimir. C'est un vieux cheval pusillanime. Il ménage toujours la chèvre et le chou. Il ne décide de rien jamais. Or, au début du roman, à la première page, on assiste à un incendie. Un incendie volontaire. C'est donc un crime. Et jusque-là, les crimes étaient admis parce que naturels. Un carnivore mangeait un herbivore, bon, il aurait pu se débrouiller autrement, mais enfin, c'était naturel. Là, c'est un crime sans excuse, si vous voulez. Et donc, Vladimir risque d'être éjecté, et chacun fourbit ses arguments, comme Bagato, par exemple, un nanon, excellent orateur, mais mauvais perdant. Il y a Douraka, la chef de file des hirondelles albinos, qui défend le colorisme. Il y a Digna, une petite taupe, qui, paradoxalement, est le fer de lance de l'animalisme, qui considère que certains animaux sont voués à gouverner parce que plus forts que les autres. Et il y a Mirko, un jeune loup, et tout le monde se revendique de Zosim l'Ancien, disparu depuis longtemps.
Alors déjà, rien qu'avec les noms, on reconnaît un peu certains personnages, Nicolas.
Oui, toute la classe politique est là, mais ce ne sont pas que des silhouettes qui pensent. En fait, au début, c'est humain. On cherche quel animal correspond à quelle personnalité politique. Et puis, on se laisse avoir et les animaux ne sont plus que des animaux qui parlent.
Je me suis laissé capturer par mes transpositions. C'est-à-dire qu'effectivement, au départ, il y avait peut-être Mélenchon en tête, Mélenchon ou Trump, enfin quelque chose comme ça, si vous voulez. Et je lui cherche un animal qui lui ressemble. Puis de fil en aiguille, l'animal en question, qui est un nanon, qui lui n'a jamais grandi véritablement, prend le pouvoir en réalité sur son personnage d'origine. Prend le pouvoir et développe une singularité qui n'appartient qu'à lui. Et ça, c'est un effet que j'ai vécu. C'est que, à mesure que j'écrivais, j'étais pris par mes personnages qui avaient leur existence autonome.
Et c'est ça ce qui donne quelque chose d'universel au roman de Raphaël Antoven, qui pointe les travers de nos démocraties et de ceux qui voudraient la subvertir.
Krasnaya, donc, aux éditions de l'Observatoire. Merci beaucoup, Nicolas Caro.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
5h57 sur Europe 1, dans un instant, la météo, le journal et une situation catastrophique.
Celle que vivent les quelques 7 millions de Libanais, dont les trois quarts sont désormais sous le seuil de pauvreté. La faute à une classe dirigeante incompétente, corrompue, incapable d'enrayer la chute de la monnaie. La livre qui a perdu, tenez-vous bien, 94% de sa valeur en seulement 2 ans. Résultat, tout est devenu hors de prix à Beyrouth ou introuvable. Carburant, électricité, nourriture, même le Doliprane est devenu inaccessible pour bon nombre de Libanais qui attendent donc beaucoup de la venue du FMI. Les négociateurs du Fonds monétaire international qui sont arrivés hier à Beyrouth pour proposer un plan de redressement. On va en parler de ce plan dans une dizaine de minutes avec le politologue spécialiste du Moyen-Orient, Hasni Abidi. On écoutera ensuite, Omblin, votre partition.
Un groupe aux élans poétiques qui donne un bon coup de fouet au rock français. Feu Chatterton et ce timbre rauque inimitable d'Arthur Teboul. Rendez-vous dans 20 minutes.
La météo, Anissa Haddadi, on prend les mêmes et on recommence.
Oui, nous avons exactement les mêmes ingrédients qu'hier, donc le même temps qu'hier. Alors, beaucoup de grisailles ce matin, des nuages bas sur une grande partie du pays. Alors déjà sur toute la moitié nord, hein, ça c'est certain. Et puis dans le sud, on a des brouillards sur la vallée de la Garonne ce matin, brouillard givrant avec des températures négatives. Et puis sur le Lyonnais également, hein, le Lyonnais, le Val-de-Saône, là c'est très gris ce matin. Dans l'après-midi, le ciel a vraiment du mal à se dissiper. Sur la moitié nord, ça reste couvert. Et puis en Nouvelle-Aquitaine, aussi, on a pas mal de grisailles. Dans le sud, sur les Pyrénées, les Alpes, la Provence et la Corse, là, on a un soleil qui brille généreusement. Le Mistral souffle ce matin jusqu'à 70 km/h. Mais bonne nouvelle, si vous nous écoutez dans la vallée du Rhône et puis au bord de la Méditerranée, ça va se calmer cet après-midi parce que parfois le Mistral, il peut être pénible. Les températures, on a des gelées qui sont moins fortes qu'hier ce matin. Moins 4 à Tarbes et Aurillac, moins 3 à Annecy, moins 2 à Belfort et Montluçon, moins 1 à Lille. 1 degré pour Paris et Metz et 4 à Bastia cet après-midi comme hier, 3 à 15 degrés.
C'est noté, merci beaucoup Anissa Haddadi. Vous écoutez Europe 1, nous sommes le mardi 18 janvier. Il est 6h. Ils n'ont pas dit leur dernier mot. Deuxième grève des enseignants prévue ce jeudi. Les syndicats dénoncent un protocole sanitaire intenable. Des conditions de travail dégradées aussi par le bruit dans les classes. Dans leur carrière, 16% des professeurs ont déjà posé un arrêt maladie à cause du bruit. Reportage à suivre. Qui pour présider le Parlement européen ? Les eurodéputés choisissent aujourd'hui. La Maltaise Roberta Metsola est favorite malgré son talon d'Achille. Les précisions de notre correspondante dans un instant. Et puis, les refus refuge de la SPA au bord de la saturation. Chez les chats, par exemple, les abandons ont augmenté de 25%, une conséquence de la crise sanitaire.
Europe Matin, Ombline Roche et Julien Pierce.
Et à 6h, le journal vous est présenté par Romane Oquet. Bonjour Romane.
Bonjour à tous. Ils ne décolèrent pas, les enseignants en grève ce jeudi. Une mobilisation dans les écoles, collèges et lycées où le protocole sanitaire plombe la vie scolaire. Les syndicats réclament davantage de matériel de protection et de recrutement.
Et il n'y a pas que le Covid qui dégrade les conditions de travail des enseignants. Dans leur carrière, 16% d'entre eux ont déjà posé un arrêt maladie à cause du bruit.
Oui, c'est ce que révèle une étude Opinionway. Les deux tiers des enseignants trouvent même leur classe trop bruyante. Fatigue, stress, migraine aussi pour les élèves. La faute à l'architecture des établissements scolaires qui négligent souvent la dimension sonore. Tout l'inverse de ce lycée de Gironde où l'acoustique fait partie des critères de construction. Le reportage de notre correspondant Stéphane Place.
Tout de suite dans le hall d'entrée, on remarque, fixé au plafond par des chaînettes, ces plaques épaisses qui amortissent les sons, le bruit. Pas de brouhaha dans ce lycée de Saint-André-de-Cubzac, construit il y a 3 ans, ni dans les couloirs, ni dans les classes, ni au CDI, ni à la cantine, pas même dans cette grande salle où l'on retrouve Patricia Brivet, l'adjointe de direction de cet établissement.
Là, nous sommes dans la salle polyvalente, équipée avec ses éléments acoustiques. Donc là, ils sont sur le mur, des grands carrés blancs sur fond gris. Ça fait pas de caisse de résonance. On a l'impression que les sons sont amortis. Les réunions de rentrée, par exemple, si on a une centaine de personnes, on peut tout à fait se dispenser d'utiliser le micro. On nous entend très bien.
Un confort acoustique précieux pour les enseignants, comme Guillaume Begue, professeur de sciences économiques et sociales.
Comparativement à d'autres établissements dans lesquels j'ai pu passer, l'acoustique en fait change la donne. Moi, je peux m'économiser, mais les élèves, ils peuvent aussi m'écouter plus facilement.
Audrey est élève de terminale du lycée STAM.
Au collège, j'avais souvent des maux de tête, j'avais des difficultés un peu à entendre. Et là, au lycée, franchement, ça change. On est plus dans le travail.
Entre 1250 et 1750 euros, c'est le coût de ce dispositif pour une salle de classe de 50 mètres carrés.
Le reportage de notre correspondant dans le Sud-Ouest, Stéphane Place.
Le ministre de l'Éducation nationale englué dans une nouvelle polémique.
Jean-Michel Blanquer était en vacances à Ibiza, en Espagne, lors de l'annonce du nouveau protocole sanitaire. C'est donc à distance que le ministre avait dévoilé le 2 janvier les nouvelles règles à l'école à la veille de la rentrée scolaire. Une information confirmée par son cabinet.
Et une information qui fait du bruit. Emmanuel Macron au Parlement de Strasbourg. Demain, un déplacement pour présenter la présidence française de l'Union européenne.
Et dans l'hémicycle, les eurodéputés élisent ce matin leur nouveau président après la mort de David Sassoli qui tenait l'institution depuis 2019. Pour le remplacer, Roberta Metsola est favorite. La Maltaise fait partie du groupe chrétien-démocrate. Et Agathe Cherki, elle coche beaucoup de cases pour décrocher le poste.
Oui, cette femme de 42 ans, une grande blonde élégante, juriste de formation, est connue de tous au Parlement européen où il lui arrive déjà de présider certains débats. C'est une personnalité plutôt appréciée, une bosseuse, une bête politique, disent même certains, une européenne convaincue en tout cas, qui vous parle très volontiers de son Erasmus en Bretagne, et surtout une députée qui maîtrise bien ses dossiers. Mais malgré tous ses points forts, sa candidature fait grincer des dents, car Roberta Metsola, comme la grande majorité de ses collègues chrétiens-démocrates au Parlement, est opposée à l'IVG. IVG que son pays, Malte, considère d'ailleurs toujours comme un crime. L'été dernier, cette maman de 4 enfants a par exemple voté contre le tout premier texte du Parlement européen qui reconnaît l'avortement comme un droit fondamental. La candidate a donc tenté de rassurer ses détracteurs. Auditionnée par les socialistes, elle a promis que si elle était élue, elle mettrait ses opinions de côté et soutiendrait toujours la position majoritaire au Parlement. Alors est-ce que cela suffira à convaincre? Eh bien en tout cas, Roberta Metsola reste la grande favorite.
Agathe Cherki, correspondante d'Europe 1 à Bruxelles.
6h passées de 4 minutes sur Europe 1, on s'intéresse désormais au refuge de la SPA qui frôle la saturation.
Oui, et plus de 7000 animaux, chiens, chats, rongeurs attendent une adoption. La Société de protection des animaux ne peut même plus accueillir de nouveaux pensionnaires. Des abandons en hausse à cause de la crise sanitaire. Louise Salé.
Les confinements ont donné des envies d'adoption ou d'achat coup de cœur d'animaux de compagnie. La conséquence, des abandons en hausse, parce que s'occuper d'un compagnon se révèle trop lourd ou parce que le travail a repris en présentiel. Jacques-Charles Fombonne est président de la SPA.
Des animaux se sont retrouvés ensuite seuls lorsque leurs propriétaires ont repris le travail. Et c'est des animaux qui ont commencé à s'angoisser, à stresser et qui déchirent les canapés pour les chats, aboient toute la journée pour les chiens.
Les refuges accueillent en ce moment autant d'animaux que pendant l'été. L'hiver, normalement, ils sont 2 fois moins nombreux. Et parmi les bêtes les plus représentées, les chats, dont les abandons ont augmenté en 2021 de 25%.
Les gens nous ont apporté par milliers des portées de chats qu'ils ont trouvées dans leur jardin, dans leur garage, sur leur pelouse, compte tenu du fait que pendant le confinement, aucune des associations locales, nous non plus, n'avons pu procéder à des opérations de capture et puis ensuite de relâcher dans la nature après stérilisation.
Les NAC, nouveaux animaux de compagnie, lapins, rats, hamsters, furets, sont aussi présents en grand nombre dans les refuges. Leurs abandons ont progressé de 56% par rapport à 2019.
Et l'autre indicateur qui progresse, ce sont aussi les signalements pour maltraitance animale. Le nombre d'enquêtes de la SPA a augmenté de 17% entre 2020 et 2021.
C'est une petite fille dont le visage est malheureusement resté dans l'histoire. Anne Frank, jeune Allemande, arrêtée en 1944 avec sa famille à Amsterdam.
Alors, qui a dénoncé la famille Frank? Qui a révélé l'adresse de leur cachette? Une nouvelle enquête lève le mystère et accuse un notaire juif. C'est ce que révèle l'auteure canadienne Rosemary Sullivan. Son dernier livre, Qui a trahi Anne Frank, est publié demain. Nicolas Caron.
Son histoire est célébrissime. C'est elle-même qui l'a racontée dans son journal intime connu sous le nom du Journal d'Anne Frank. En 1942, elle se cache dans les bureaux de la société Opecta avec sa famille pour échapper aux rafles. Mais en août 1944, la cachette est découverte et Anne Frank déportée. Elle mourra au camp de Bergen-Belsen. Ce que l'on ne savait pas jusqu'à maintenant, malgré de nombreuses théories, c'était le nom de l'informateur, de celui qui les a dénoncés. D'après un ancien agent du FBI qui a mené une enquête de 6 ans, racontée dans un livre de l'auteur canadienne Rosemary Sullivan, intitulé « Qui a trahi Anne Frank ?», il s'agirait d'un certain Arnold Vandenberg, un notaire juif qui aurait dénoncé les Frank pour sauver sa propre famille. Il est mort en 1950. Le directeur de la maison d'Anne Frank appelle à la prudence et même si l'hypothèse est intéressante, il considère qu'une enquête plus approfondie est nécessaire.
Nicolas Caro.
C'était le journal de 6h signé Roman Hockey. Merci beaucoup Roman.
On passe au sport à 6h06.
Passionné de sport, toute l'actu pour bien parier sur Europe 1 avec Winamax. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Le journal des sports de Martin Lange et on commence avec la qualification de l'équipe de France de handball pour le tour principal de l'Euro.
Oui, les Bleus ont battu la Serbie hier soir, un score final 29 à 25, mais l'écart aurait dû être beaucoup plus important sans un trou d'air dans le dernier quart d'heure. Les joueurs de Guillaume Gilles joueront le tour principal à partir de jeudi, avec déjà 2 points dans l'escarcelle. Contrat rempli donc pour le demi-centre Quentin Mahé étincelant hier.
On a pris du plaisir, on a su répondre positivement à ce qu'ils ont présenté défensivement. On est très content d'être qualifié, voilà, avec la manière, on a réussi à remplir le contrat tout simplement. Maintenant, une nouvelle compétition commence à Budapest.
Quentin Mahé au micro de nos confrères de Beansport.
Le rugby, Fabien Galthié dévoile aujourd'hui la liste de 42 joueurs qui vont préparer le tournoi des Six Nations.
Oui, peu de surprises à attendre. Les cadres qui ont balayé les All Blacks en novembre seront bien présents. En revanche, toujours pas de Charles Olivon. Le capitaine soigne son genou. Son suppléant Antoine Dupont continue d'assurer l'intérim. Mais Olivon reviendra bientôt et plus fort, selon le sélectionneur.
Projetons-nous peut-être sur la deuxième partie de la saison. Ça lui laisse le temps aussi de ne pas faire les choses trop vite. Je ne pense pas qu'un ligament croisé du genou va l'arrêter. Le garçon est tenace. Dans ces moments-là, on travaille beaucoup sur la dimension psychologique. On se muscle psychologiquement. C'est ce qu'il est en train de faire.
Fabien Galthié au micro de Jean-Luc Boujon. Premier match pour les Bleus le 6 février face à l'Italie. Et puis à la page rugby, a noté le rapport accablant sur les liens entre le président de la fédération Bernard Laporte et celui de Montpellier, Moed Altrad, également sponsor maillot du 15 de France. Un procès pour corruption pourrait avoir lieu à l'automne, selon le journal L'Équipe.
En bref, pour finir, Martin.
Du basket avec le Martin Luther King Day, journée d'hommage au leader de la lutte pour les droits civiques aux États-Unis. 24 franchises NBA étaient sur les parquets et Nicolas Batum a sorti son plus beau costume. 32 points pour le capitaine des Bleus et victoire des Los Angeles Clippers contre Indiana. Retour en France avec le choc franco-français ce soir en Euroleague. L'Asvel reçoit Monaco. Un mot de volée puisque c'est un joueur français qui a été élu meilleur joueur du monde par la Fédération internationale. Le passeur Antoine Brizard, champion olympique à Tokyo.
Merci beaucoup Martin, c'était le journal des sports de Martin Lange.
Restez avec nous dans un instant, on va s'intéresser à la situation catastrophique du Liban, pays surendetté, rongé par l'inflation et la corruption de sa classe dirigeante et qui attend beaucoup de la venue à Beyrouth du FMI. On en parle dans un instant avec Asni Abidi, spécialiste du Moyen-Orient. A tout de suite.
5h, 6h30,
Europe Matin.
Bon début de matinée, il est 6h11 sur Europe 1. Votre invité Julien est politologue et directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen, le CERMAM à Genève.
Bonjour Asni Abidi.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous ce matin pour évoquer la situation au Liban où depuis hier, une délégation du Fonds monétaire international, le FMI, est arrivée à Beyrouth pour discuter d'un plan de redressement. On va y revenir. Mais avant, pour qu'on comprenne bien les enjeux, dans quel état de décrépitude est le Liban aujourd'hui ? Est-ce que c'est un pays en faillite ?
C'est un pays qui est en quasi-faillite. Jamais le Liban, depuis son indépendance, n'a atteint un niveau donc d'effondrement à la fois sur le plan économique et social. Un seul chiffre, la livre libanaise a perdu plus de 90% de sa véritable valeur. Ça, c'est le premier indicateur. Le deuxième indicateur, vous avez un gouvernement en pleine crise économique et sociale et qui n'a pas pu se réunir depuis le mois d'octobre. C'est-à-dire que le niveau de division interne au Liban atteint aussi un niveau record et qui exclut finalement toute entente sur le plan économique et social et politique, ce qui rend bien sûr la gestion de la crise économique presque inopérante.
Vous avez parlé, évoqué la chute de la valeur de la monnaie libanaise, la livre libanaise, ce qui fait que trois quarts des Libanais, c'est considérable, vivent aujourd'hui sous le seuil de pauvreté selon l'ONU. Est-ce que vous avez souvenir d'un pays qui s'est délité à cette vitesse ?
Généralement, cette situation, la situation que vit aujourd'hui le Liban, est la situation qu'on trouve dans un pays en guerre civile larvée, ou un pays qui dans un conflit direct avec un autre État, mais pas la situation libanaise. Et c'est ça le paradoxe de la situation au Liban, c'est que il y a une certaine stabilité malgré, c'est vrai, les divisions internes, on le sait très bien, entre les plusieurs composante de la société libanaise, mais il n'est pas en conflit armé. En quelque sorte, les responsabilités sont premièrement des responsabilités internes.
Mais ce constat, celui d'une classe dirigeante incompétente et corrompue, ça fait des années, vous le dites, que les Libanais le font. Comment vous expliquez que ce système politique confessionnel qui sclérose le pays, pour expliquer à nos auditeurs, en clair, c'est les différentes communautés religieuses, que ce soit les chrétiens maronites ou les musulmans chiites qui se partagent les postes. Comment vous expliquez que ce système confessionnel perdure ?
Il perdure parce que les barons de la société libanaise sur le plan politique, économique et social sont les véritables promoteurs de ce système qui est basé sur un confessionnalisme. Vous avez les mêmes familles qui gouvernent le Liban presque depuis son indépendance. Vous avez l'omerta, un grand silence en matière de gestion économique, c'est-à-dire que les chefs de partis politiques, une grande partie d'entre eux, sont eux-mêmes les grands actionnaires des institutions bancaires, c'est-à-dire les banques au Liban responsable de la faillite du pays. Mais vous avez aussi les divisions internes, vous l'avez dit, c'est-à-dire que vous avez le Hezbollah, par exemple, qui bloque cette commission très importante attendue par les Libanais sur les responsabilités politiques de l'explosion, mois d'août 2020, dans le port de Beyrouth. Enfin, en quelque sorte, les divisions internes, mais aussi cette confessionnalisation de la vie politique, certes, elle a fonctionné depuis plusieurs années, mais parce qu'elle a fonctionné quand le Liban était prospère sur le plan économique, il n'était pas engagé probablement dans des conflits internes comme c'est le cas avec le Hezbollah. Aujourd'hui, ce système est arrivé à ses limites.
C'est donc dans ce contexte, pour ne pas dire ce bourbier, que les négociateurs du Fonds monétaire international ont débarqué hier à Beyrouth. Hassni Abidi, à quoi peut bien servir leur venue, sachant qu'en face, on a un gouvernement libanais qui s'est réuni, vous l'avez dit, ces dernières heures, pour la première fois depuis le mois d'octobre. Est-ce que le FMI peut décemment confier des milliards de dollars d'aide à des personnes qui sont responsables de la situation actuelle ?
Ah, le FMI, il s'agit d'abord d'une banque, c'est une institution et elle est redevable à son conseil d'administration. Le FMI étudie quelles sont les conditions de l'octroi d'une aide économique et financière. Il ne s'agit pas d'ajustement. Cette mission du FMI, c'est la mission de la dernière chance. Il s'agit d'un plan de sauvetage de l'économie libanaise, je dirais même un sauvetage du Liban. Quand vous avez aujourd'hui le salaire moyen de de Libanais est entre 25 et 35 dollars. Vous l'avez dit, c'est-à-dire que vous avez 3 sur 4 Libanais, selon les Nations Unies, vivent en dessous du seuil de la pauvreté.
Et on manque d'essence, d'électricité, même les médicaments sont devenus hors de portée pour le commun des mortels au Liban.
Absolument, le pays est en défaut de paiement. Il ne peut pas importer de fuel pour l'électricité, il ne peut pas importer des médicaments, les produits alimentaires. Donc c'est un pays qui est à l'arrêt. Et c'est pourquoi la mission de FMI, c'est finalement la dernière chance qui reste pour les Libanais pour négocier une aide financière et économique, pour renflouer en quelque sorte les caisses de l'État. Mais cette aide, elle est conditionnée, c'est normal. Il y a un audit qui est exigé et qui, je dirais même, indispensable. Et malheureusement, la Banque centrale, le gouvernement ne sont pas d'accord sur cet audit, mais aussi des conditions financières. Et le dernier mot, attention, que peut-il faire encore les Libanais qui sont déjà dans une situation de quasi-faillite, c'est-à-dire que les programmes d'ajustement structurel ou encore demander aux Libanais de serrer les ceintures, ils ne peuvent pas le faire alors que leur salaire ne dépasse pas le 25 dollars par mois.
Dernière question et très rapidement à Hasni Abidi. Il y a un an et demi, Emmanuel Macron s'était rendu à deux reprises au Liban. Quelques semaines après les terribles explosions dans le port de Beyrouth, le président français avait appelé à la mise en place d'un gouvernement d'experts au plus vite. Résultat, il ne s'est strictement rien passé. C'est un échec pour Emmanuel Macron ou c'était de toute façon mission impossible ?
Alors, c'est une mission très difficile. C'est un échec, c'est vrai, mais le président français, il a osé, c'est vrai. Sa visite à Beyrouth était un signe d'espoir. Il a réussi tout de même à engager une certaine dynamique interne, à aussi faire un diagnostic clair de la situation libanaise. Malheureusement, les interférences iraniennes, la guerre que se livrent l'Arabie Saoudite et l'Iran sur le sol, les Libanais, a fait que la situation ne suive pas les recommandations de la France.
Merci beaucoup Hasni Abidi de nous avoir éclairé ce matin sur la situation catastrophique au Liban. Je rappelle que vous êtes politologue et que vous avez publié l'année dernière Le Moyen-Orient selon Joe Biden, c'est aux éditions Éric Bonnier. Très bonne journée à vous.
Merci à vous.
Vous écoutez Europe 1 dans un instant, la partition de Fachet Ayrton.
Votre partition, Blin, pour conclure cette matinale. Ils sont nommés aux prochaines victoires de la musique. Feu Chatterton va concourir dans trois catégories, et notamment celle de l'artiste de l'année.
Oui, et cette citation, dans la catégorie reine, le groupe la doit à son troisième album. Depuis sa création, il y a 10 ans, Feu Chatterton se démarque volontairement par sa combinaison d'univers distincts.
Derrière leur écran total, les gens se régalent.
Voilà donc 5 Parisiens, Dandy Assouet, qui bousculent les codes de la chanson française.
Oui, cette chanson française, Julien, constitue le socle en béton de leur création. Ce qui n'empêche pas Feu Chatterton de s'amuser à brouiller les pistes, d'imaginer un monde nouveau avec une écriture empruntée aussi bien à la littérature qu'au rap, avec une musique rock ou électro.
Une agilité dont le chanteur Arthur Teboul fait preuve dès le lycée.
Oui, ses guides sont aussi bien Honoré de Balzac que Jacques Brel. Il peut citer aussi facilement Booba que Barbara. Avant de décrocher son bac, Arthur Teboul noircit des feuilles de poésie, enchaîne les concours de slam. Les prémices de Feu Chatterton s'écrivent avec deux camarades, fous de rock, Clément Doumic à la guitare et Sébastien Wolf au clavier.
Moi, je suis resté le même, qui aime, qui attend que vienne le printemps. Qui aime, qui attend de reconnaître un jour le printemps.
Pendant que l'avenir du groupe se dessine, les trois musiciens assurent leurs arrières avec des études bien sérieuses.
Oui, ils deviennent normaliens, centraliens ou diplômés d'une école de commerce. Feu Chatterton prend de l'épaisseur quand arrive dans ses rangs Antoine Wilson à la basse et Raphaël de Pressigny à la batterie. Tous les cinq décident d'abandonner cet avenir bien carré, tout tracé, pour devenir des rockstars. L'un d'eux raconte que c'était devant le marchand de bonbons, place de l'Odéon.
Feu Chatterton se construit dans les bars parisiens.
Ils additionnent ensuite les tremplins, les prix, et sortent le premier album au titre Ici le jour a tout enseveli, aussi lyrique que leur nom choisi en hommage au poète britannique du XVIIIe siècle, Thomas Chatterton. Un clin d'œil malin lancé également à Alain Bashung.
Le groupe laisse passer 3 ans avant de confirmer l'essai.
Oui, avec le disque L'Oiseleur. 3 ans encore pour Palais d'Argile, l'écriture est une fois de plus magnifiée par la puissance rock et par la production d'Arnaud Robotini, grand prêtre des musiques électroniques en France. Feu Chatterton fantasme le monde de demain sous la protection de quelques fantômes du passé.
Compagnon d'un mauvais jour, je vous souhaite une bonne nuit. Et je m'en vais, la recette a été mauvaise. C'est encore une fois de ma faute. Tous les torts sont de mon côté. Alors je m'en vais, j'aurais dû vous écouter. J'aurais dû jouer du caniche, c'est une musique qui plaît. J'aurais dû nous écouter. Mais je n'en ai fait qu'à ma tête. Et puis je me suis énervé. Compagnon, pensez à moi quelquefois, plus tard, quand vous serez réveillé. Pensez à celui qui joue du phoque et du saumon fumé au bord de la mer. Les mauvais jours, les mauvais jours, les mauvais jours. Compagnons des mauvais jours, je vous souhaite une bonne nuit. Et je m'en vais, la recette a été mauvaise. Quand on joue du chien à poil dur, il faut ménager son archer.
Une reprise de Jacques Prévert, chantée par Yves Montand, racontée par Serge Reggiani, interprétée ici par Feu Chatterton, compagnon, compagnon des mauvais jours, extrait du dernier album Palais d'Argile, nommé aux prochaines victoires de la musique. Elles se tiendront le 11 février.
Merci beaucoup, Ombline. La matinale se poursuit dans un instant avec le compagnon Dimitri Pavlenko. À tout de suite.
Europe Matin, 6h27, merci de nous choisir. On vous donne rendez-vous demain.
À partir de 5h, bon pied, bon oeil. Bonjour Dimitri Pavlenko.
Bonjour Julien, bonjour Ombline.
Bonjour.
Ah, j'ai beaucoup aimé chez Feu Chatterton à l'instant.
Ah, c'est incroyable. Les trois albums sont magnifiques.
Non, vous savez, moi je suis pas. Enfin, c'est pas trop ma cam, comme on dit.
Eh bien, il faudrait vous y mettre.
Mais là, je vais m'y mettre.
Ah, avec plaisir.
Je vais m'y mettre. Voilà. Ça, c'est le pouvoir de prescription de la radio. Et Ombline en particulier.
Merci.
Bonjour à toutes, bienvenue dans Europe Matin à 8h.